nous suivez sur les antennes de nos radios partenaires. C'est l'heure de votre plateau axé sur l'entraide et la solidarité. La solidarité est une valeur, autrement dit, la valeur qu'on accorde aux autres et à la communauté qui nous réunit. Ensuite, des pratiques qui traduisent cette valeur en actes concrets. L'émission Faboudirène est notre solidarité envers vous. L'émission qui vous guide, informe et sensibilise. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons chaque dimanche. Nous parlons ce soir des enfants orphelins en situation de déplacement. Dans ce numéro, nous allons tenter de savoir comment sont identifiés les orphelins en situation de déplacement, comment les organisations humanitaires procèdent-elles à leur prise en charge, où vivent-ils, que font les services étatiques compétents pour ces cas. Toutes ces questions et tant d'autres seront abordées dans ce studio avec M. Drissa Ballo de l'ONG ADAC, Association pour le développement et l'appui aux communautés. Au cours de cette émission, nous allons également partir à Banyangara à la découverte des déplacés des retours. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Les réponses dans ce numéro. Faboudirène est une présentation ce soir de l'Aladjara Touré. Gagné Kanté conduit les opérations techniques. Bonsoir et merci pour votre constante fidélité. Encore merci de nous suivre, fidèles auditeurs. Je vous l'annonçais à l'instant, il est question ce soir des orphelins en situation de déplacement. Selon le ministère de la Santé et du Développement Social, au moins 330 000 personnes se sont déplacées en mai 2024 à travers le Mali. Parmi elles, 292, dont 127 filles, sont des orphelins qui paient le lourd tribut de ces conflits. Certains sont orphelins de père ou de mère et d'autres ont perdu les deux parents. Ces enfants sont accueillis sur des sites de déplacés internes et dans des familles d'accueil. Leurs conditions de vie sont parfois déplorables. Qui pour aider ces enfants terrifiés par les conflits? Quelle politique l'État a mis en place pour ces enfants victimes? Lali Tangara nous donne des éléments de réponse dans ce magazine.
Marchant difficilement sous sa tente, ce jour, Aïcha Bari, grand-mère de deux enfants orphelins, ne se sent pas bien. Malgré son âge avancé, elle se débrouille pour prendre soin de ses petits-enfants qui sont désormais à sa charge. Âgés entre 4 et 5 ans, ses enfants sont orphelins de père et de mère.
Je m'occupe d'eux depuis le décès de leurs parents. Je les nourris, les habille. S'ils tombent malades aussi, je les soigne. Et c'est ainsi depuis 3 ans. Le plus âgé a d'ailleurs commencé à étudier. Dieu merci. On reçoit aussi de l'aide de la communauté. Présentement, je suis souffrante.
Abdoulaye Bari est aussi dans la même situation tragique. Il a perdu sa femme à Ogusagu, dans la région de Badjangara. Ses enfants sont tout petits et il doit jouer le rôle des deux parents. Cela le pénalise beaucoup, dit-il.
Je vis avec mes enfants orphelins sur le site depuis le décès de leur maman, qui était ma femme suite au conflit à Ogusagu. Depuis 2019, environ 6 ans, je suis le seul à m'occuper de ces enfants. Leur prise en charge n'est pas facile, mais avec les aides, j'arrive à m'en sortir.
Nous avons une quarantaine d'enfants orphelins sur notre site et on a des difficultés par rapport à leur prise en charge. C'est ce que souligne Oumar Diko, président du comité de gestion du site des déplacés de Senou Bamako. Ce responsable explique que ces enfants orphelins bénéficient d'un hébergement, mais la difficulté se situe au niveau des soins sanitaires.
Il y a certains qui sont chez leurs parents. Par exemple, les parents de leur papa et maman qui sont là. Il y a certains aussi qui sont non accompagnés même parce qu'ils sont avec seulement avec les voisins. Donc vraiment, c'est une difficulté pour nous, ces enfants, parce que souvent, s'ils tombent malades, c'est des problèmes. Leur habillement. Pour les scolarités, vraiment, ça va parce qu'on a une école ici. C'est nous qui se débrouillons sur le site. Il n'y a pas ces ONG qui est là à cause de ces enfants-là pour nous aider ou pour les prendre en charge. Pour le moment, on n'est pas ces ONG.
À Massina, dans la région de Ségou, sur le site des déplacés, Moussa Diara, responsable du site, souligne que ses enfants bénéficient souvent de l'aide d'ONG, mais vraiment rare.
Les enfants qui vivent sur le site où leurs parents sont décédés, tout le monde s'occupe d'eux. Même chez moi, il y en a. En ce qui concerne leur prise en charge en cas de maladie, ils sont tous égaux sur le plan de traitement. Il y a même une ONG qui est venue en leur offrant des habits, des sacs et des animaux.
À Mopti, le service de développement social de la localité a enregistré plus de 39 680 enfants déplacés à la date du 31 janvier 2025. Selon les responsables, ces enfants sont pris en charge. Mamadou Bekeita, du service de développement social, la donne plus de précisions.
Nous avons enregistré 282 enfants orphelins, tout confondu, orphelins de père, orphelins de mère, orphelins de père et de mère. Il y a à peu près 127 filles. Il y a un seul partenaire qui est vraiment à notre niveau, qui a fait la prise en charge de ces enfants-là, c'est ASEF. API conseille aux enfants et aux femmes du Mali. Donc, ils ont fait une première prise en charge. Donc, ils sont là-dessus pour la deuxième. Ça, c'est en cours.
Au regard des différentes interventions, le cas des enfants orphelins ne mobilise pas suffisamment d'organisations humanitaires. Mais elle précise que ces enfants ne sont pas discriminés et bénéficient de la même prise en charge que les autres couches défavorisées. Brahima Ballo est responsable des programmes du projet AMSOD, Association malienne pour la solidarité et le développement.
Nous ne discriminons pas les enfants. Si les sites, qu'ils soient orphelins ou pas, tous les enfants sont dans les besoins. Nous ciblons les enfants qui ont des besoins sur le plan sanitaire, les enfants qui doivent aller à l'école ou les enfants qui sont handicapés, qui ont besoin d'une protection spéciale. Nous les apportons une aide concrète, l'instruction à l'école, les prises en charge sur le plan médical. Eh bien, on s'occupe même de leur nutrition.
Cela étant dit, les responsables du site lancent un appel urgent pour ces enfants pour implorer l'aide de l'État, des bonnes volontés et les ONG. Ces enfants orphelins, selon eux, sont déjà vulnérables. Et si toutes les conditions ne sont pas réunies, il sera difficile de leur assurer un avenir meilleur.
Nous venons là de suivre un magazine de notre reporter Lali Tangara qui traite des questions en lien avec la prise en charge des enfants orphelins qui sont aussi déplacés. Nous avons sur ce plateau M. Drissa Ballo de l'ONG ADEC. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre sollicitation.
Bonsoir madame, merci de nous avoir invités. J'ai dit nous à travers l'organisation, quoi, d'avoir invité l'organisation ADEC à votre émission.
Alors, quelle réaction vous avez à la suite du reportage que nous venons d'écouter?
Pour quelqu'un qui travaille dans les site de déplacer un reportage pareil, c'est comme si vous êtes en train de vous regarder dans un miroir. C'est notre quotidien. C'est ce à quoi on est confronté. On fait le mieux pour donner le peu qu'on peut avoir pour ces enfants.
D'accord, Monsieur Ballo. Parlez-nous, s'il vous plaît, de votre organisation.
ADEC, c'est l'Association pour le développement et l'appui aux communautés. Nous sommes en partenariat avec Terre des Hommes Sus et nous œuvrons dans les sites de déplacés de Bamako. Quatre sites de déplacés, c'est-à-dire le site de Faladje Garbal, celui de Sénou et celui de Inyamana et du centre Mabilé.
D'accord. Alors, comment identifiez-vous un enfant orphelin en situation de déplacement?
Chez nous, c'est tous les enfants. Tous les enfants qui sont déplacés sont pris en charge par nos activités. Donc, faire la différence entre enfants déplacés orphelins et non orphelins, nous considérons que tous les enfants ont les mêmes droits. Donc, on ne fait pas de différence entre faire une sélection d'enfants déplacés orphelins et non orphelins. Non, non, c'est les enfants tout court.
D'accord. Et comment est-ce que vous les identifiez, vos cibles? C'est sur les sites de déplacés?
Bon, en fait, d'abord, pour travailler dans les sites de déplacés, on prend contact avec le développement social qui est en charge des sites au niveau de Bamako. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, on parle d'abord des données que nous recevons du développement social. Donc le nombre d'enfants que nous avons pris en charge cette année, ce nombre est venu du développement social. À partir de ce que le développement social nous donne et à travers nos interventions, si on constate que les sites de déplacés, comme vous le savez, c'est des endroits où la situation est souvent volatile. Aujourd'hui, il y en a qui viennent et demain, vous trouverez qu'il y en a qui sont partis. Aussi bien que s'il y a des arrivants et que nous avons connaissance de leur arrivée avec des enfants, là, on prend attache avec le développement social qui les comptabilise. Donc, en résumé, nos chiffres viennent du développement social.
Vous avez parlé de prise en charge. Alors, comment se fait justement cette prise en charge?
Bon, nous intervenons au niveau des sites. En fait, chaque organisation a sa ligne de travail. Nous intervenons dans la protection, dans l'éducation et la participation des enfants. C'est sur ces trois axes que nos activités sont focalisées. Mmh. Voilà.
D'accord. On va dire quels sont les volets spécifiques, vous venez de le dire, éducation, protection. Comment est-ce que cette feuille de route est pratiquée?
Ok. En fait, d'abord, on recense au niveau de l'éducation, on recense tous les enfants qui sont scolarisés. ou qui sont en âge d'être scolarisés. Et ceux-là, on les appuie en matériel, en kit scolaire, tous les ans. À la rentrée, on achète des fournitures scolaires pour ces enfants. Mais l'ONG même, dans la mise en œuvre de ses activités, a fait de la réhabilitation de salles de classe, a fait de la construction de nouvelles salles de classe, pour que les enfants puissent avoir un cadre idéal d'études au niveau des sites de déplacés. En plus de cela, il y a des écoles qu'on a appelées des écoles hôtes, c'est-à-dire les déplacés étant venus dans les sites de déplacés, il y en a qui ont habité, sinon qui habitent jusqu'à présent les quartiers aux alentours des sites. Ces quartiers qu'on a appelés les quartiers hôtes. Et ceux-là, et certains des sites ont amené leurs enfants dans les écoles de ces quartiers. C'est ces écoles qu'on a appelées les écoles hôtes et qu'on appelle les élèves des écoles hôtes. En fait, c'est nous intervenons notamment dans le groupe scolaire 1 de Sogonigo, l'école Nouvelle Création de Nyamana, l'école Medarsat.com de Nyamana, et l'école fondamentale de Falajé Sema A et B. Et voilà les écoles que nous couvrons, qu'on a appelées les écoles hôtes. C'est-à-dire dans ces écoles, il y a des enfants déplacés des quartiers et des sites qui fréquentent ces écoles. Voilà, donc nos actions sont portées vers ces écoles-là pour atteindre ces enfants déplacés et les enfants de ces écoles-là. Comme je l'ai dit, en matière d'école, c'est cet appui-là qu'on apporte aux enfants. Mais concernant la protection, on mène des activités de sensibilisation au niveau de ces écoles et des 4 sites de déplacés que nous couvrons. En ce moment, ces activités touchent tous les enfants. Ce n'est pas uniquement les scolaires, ce n'est pas aussi uniquement les enfants déplacés.
Les déplacés.
Voilà.
Merci beaucoup, M. Ballot, pour ces premières réponses. Rassurez-vous, fidèles auditeurs, l'émission n'est pas finie. Nous allons à présent partir avec la rubrique « Modèle de réussite ». Et pour cela, nous partons à Badiagara. Chez les personnes déplacées internes, tout n'est pas noir. Le parcours de certaines d'entre elles inspire et motive. Ce soir, dans notre rubrique « Modèle de réussite », nous partons à la rencontre de Séni Bari, un déplacé de retour dans sa localité d'origine. Il a été contraint à quitter Bandiagara à cause de l'insécurité. De retour avec sa famille dans sa localité, M. Bari soutient qu'il fait face à des difficultés économiques dans la prise en charge des siens. Néanmoins, il reconnaît que des initiatives sont en cours pour alléger leurs souffrances. À la découverte de Séni Bari, un déplacé de retour avec Adam Ndjigiba, notre correspondant à Bandiagara.
Il est 17h lorsque nous arrivons chez Séni Bari à Bandiagara. Vêtu d'un boubou bleu, il est entouré par des membres de sa famille. L'insécurité dans sa localité l'avait contraint à se déplacer en 2017 vers Mopti. Une aventure qui, selon lui, était nécessaire pour sa survie ainsi que celle de sa famille. Il nous raconte son vécu.
Dû à l'insécurité grandissante dans les années 2017, nous étions obligés de partir de Bandiagara pour Mopti où nous avons passé 6 années. Dieu merci, les ONG et des particuliers nous ont soutenus pendant notre séjour. Aujourd'hui, grâce au gouverneur et l'ERAR, nous avons pu regagner notre terre d'origine.
Comme Séni Bari, plusieurs autres déplacés regagnent ces derniers temps leur localité d'origine en raison de l'accalmie qui y règne. Ils reconnaissent cependant que beaucoup de difficultés subsistent.
Mais nous n'avons rien comme activité ici. Nous avons tout perdu. Nous avons aussi des problèmes de logement et d'alimentation. Donc, nous demandons à toutes les bonnes volontés de nous assister.
Pour se déplacer de retour, l'avenir s'annonce prometteur. Selon lui, les autorités compétentes ont déjà entrepris des démarches pour faciliter les problèmes liés à leur réinsertion professionnelle et leur logement.
Tout n'est pas facile, nous le savons. Mais nous avons eu la visite de certains agents de l'État. Ils nous ont rassurés et ils sont même en train de prendre les précautions pour réhabiliter nos maisons. Nous restons confiants. Nous espérons que les choses iront pour le mieux.
En attendant une solution pérenne, Seyni Bari et d'autres déplacés de retour dans la même situation font preuve de résilience au quotidien. De Bayangara, Adama Djigiba pour Sidio Tamani.
Nous venons de suivre un reportage sur les difficultés que certains déplacés de retour dans leur localité rencontrent. Alors, M. Balou, vous qui êtes bien imprégné de leur situation, avez-vous un commentaire?
Bon, c'est comme je l'ai dit après le premier reportage, c'est en fait le quotidien de ceux-là qui travaillent avec les déplacés. Comme il a souligné dans le reportage, la question du logement. C'est vrai, celui-là est retourné, mais ceux qui sont sur les sites des déplacés, en général, pendant l'hivernage, c'est vraiment un problème. Les conditions de logement sont vraiment difficiles, on va dire comme ça.
Revenons à présent à notre sujet central, c'est-à-dire la situation des orphelins déplacés. Les enfants sont-ils placés dans un orphelinat ou vivent-ils sur des sites de déplacés?
Ça, c'est les enfants sont au niveau des sites de déplacés et certains dans des familles à l'extérieur des sites, c'est dans les quartiers.
Donc des familles d'accueil?
Oui.
En fait, comment c'est encadré?
Bon, les enfants bénéficient des mêmes avantages que ceux-là qui sont avec leurs parents. Si par exemple on parle de nous parlons de protection, par exemple on a mis des dispositifs de protection au niveau des sites déplacés qu'on a appelé mécanismes de protection. Dans ces mécanismes-là, vous trouvez que on a des mères protectrices, des couples modèles, des hommes modèles et des clubs d'enfants dans les différentes écoles. Maintenant, tous ces mécanismes-là travaillent à protéger les enfants contre toutes les violences dont ils peuvent être victimes ou dont ils sont susceptibles d'être victimes. C'est-à-dire qu'ils jouent le rôle d'alerte et de signalement des cas de violence. Voilà, donc ces mécanismes-là, comme j'ai dit, les mères protectrices, c'est 150 mères que nous avons mis en place dans les quatre sites. Nous avons 120 couples modèles et nous avons 40 hommes modèles. On entend par mère protectrice des dames d'un certain âge auxquelles on confie les filles qui ne sont pas leurs filles biologiques. Maintenant, la mère, elle est chargée de veiller sur cet enfant-là. Si elle est scolaire, il faut que cette mère-là suive l'enfant même au niveau de l'école. Est-ce qu'elle va à l'école? Est-ce qu'elle a de bons résultats? Voilà. Est-ce que celle-là à tout ce qu'elle veut. Bon, entre parenthèses, tout ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle ne subit pas des choses dont elle ne peut pas parler avec tout le monde? C'est-à-dire que cette mère-là échange avec la fille sur même les sujets qui sont supposés être des sujets tabous dans nos communautés. Mm-hmm. Parce que nous travaillons avec les peuls, le débat il est souvent lourd. En parlant de filles, par exemple, c'est des filles de 12 ans, de 11, 12 jusqu'à l'âge du mariage. Donc cette période-là, à l'âge pubère, les filles, on a constaté que les filles n'avaient personne à qui se confier. C'est une nouvelle vie, une nouvelle phase de leur vie qui commence quand elles rentrent dans les premières menstruations. Donc avec ces mères-là, elles discutent avec ces filles, les rassurer et leur dire quelles sont les précautions qu'elles doivent prendre pour se sentir à l'aise. Qu'est-ce qu'elles doivent éviter pour ne pas tomber dans des situations désagréables.
Alors, à ce jour, est-ce que nous avons des statistiques qui pourraient nous indiquer leur nombre?
Les filles, les enfants, que, bon, comme je l'ai dit, nous prenons tous les enfants. À ce jour, nous travaillons avec 1640 enfants. Et dans ces 1640 enfants déplacés, ce n'est pas les enfants des écoles hautes, des quartiers hautes, mais 1640 enfants déplacés, dont 939 filles. Voilà, c'est ces enfants-là qui nous encadrons et qui font partie des quatre sites que j'ai cités précédemment.
Mmh. Mmh. Alors, qu'est-ce que l'État fait concrètement pour ces enfants-là? Vous avez dit que vous travaillez avec le développement social. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que l'État pose comme action concrète en tout ce qui concerne ces enfants?
Bon, déjà, pour que nous puissions aller travailler dans les sites, il a fallu que l'État nous autorise à y aller. Nous avons répertorié les sites, mais pour commencer des activités, il faut que l'État nous autorise à aller travailler. Et les agents du développement social qui sont dans les sites aussi, c'est ceux-là qui coordonnent nos activités. Ils veillent à ce que nous ne faisons... Nous sommes organisation d'aide, mais il faut au moins que quelqu'un soit là aussi pour regarder est-ce que ce que nous disons dans nos cahiers de charges et ce que nous menons comme activité sur les sites, est-ce que ça va? Bon, ils sont là pour voir ça, pour savoir que ce que nous leur donnons, notre plan d'action, nous leur offrons cela et les activités qui sont consignées dedans, ils savent qu'est-ce que nous faisons et ils ont l'œil sur cela pour ne pas qu'on, façon de parler, qu'on fasse des égards.
Merci beaucoup, M. Ballot, pour toutes ces précisions. Fabou Deren, c'est aussi des rubriques riches et assez diversifiées. Nous allons donc partir avec l'artiste de la semaine. Cette rubrique nous amène à la découverte ce soir d'un jeune artiste très talentueux. Il nous vient de la cité des Rails, une ville pour laquelle il a d'ailleurs chanté. Il s'agit de Cheikh Sérément Sissoko, suivant l'échange que nous avons eu avec lui. Alors, chers auditeurs, nous recevons ce soir dans la rubrique Artiste invité de votre émission humanitaire Fabou Deren, Cheikh Sérément Sissoko. C'est vrai qu'il n'est plus à présenter, mais nous allons tout de même lui donner la parole pour qu'il nous explique de long en large qui est Cheikh, comment Cheikh est venu dans l'art. Cheikh, bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous Lala?
Ça va et vous?
Ah, alhamdoulilah, c'est un plaisir d'être là, de partager ce moment avec tous les auditeurs. Vous avez votre artiste Djilike, Cheikh Sérément Sissoko. Je suis Kassonké, je viens de la première région qui est Kaï. Donc, je suis natif de Kaï. Voilà, j'ai fait l'INA. Et puis, je viens d'une grande famille de griots, de musiciens. Donc, voilà un peu Cheikh Sérément.
Hey Kasso, on sait que Cheikh a beaucoup chanté, dans plusieurs registres d'ailleurs, mais Cheikh a chanté Kaï, c'est une chanson que beaucoup de personnes ont aimé, on va dire. Est-ce que c'est à travers cette chanson justement que le grand public a connu Cheikh ou quelle est la chanson qui a fait connaître
Je dirais c'est pas à travers cette chanson, mais je dirais c'est à travers une émission de télé-réalité qui s'appelle Kasanga. C'est à travers cette émission que j'ai été connu par le grand public. Sinon, la chanson Kaïba Djabaté, donc je l'ai composée pour mon amour pour ma région, parce que quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Donc pour l'amour de la région de Kaï, voilà pourquoi j'ai chanté Kaïba. Et puis pour donner ce certain truc, nos routes sont pas faites. Le train faisait vivre certains villages, mais l'arrêt des trains, ça fait qu'il n'y a pas d'activité dans certains villages. Donc à travers les clips Kaïba, donc j'ai essayé de magnifier Kaï, de faire un signal à l'autorité pour qu'ils puissent penser un peu à notre région.
Cheikh peut fredonner un tout petit peu. Je suis sûr que les auditeurs là ont envie d'entendre un petit bout.
Kaïba Djabaté, Konte Djenale Kaïba, Kaïba Djabaté, Nte Djenale Kaïba, Akaïba Kaïba 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 Kadi.
On sait que Cheikh a aussi chanté l'amour.
Abdoulaye Amadou Bassissé Korotumu Amiro Sidibé Ne balou l'élément Mogodiana Kelebi Kesamfenye Samfè Adouna Garale A la petite ligne Samfè Garambarana Abdoulaye Amadou Bassissé
Cheikh est dans beaucoup de registres. Si on te demandait, on te posait la question à savoir comment est-ce que tu t'identifies dans l'art que tu fais justement. Quel registre Cheikh classe ses
yeux? Je dirais que je fais du world music. Bon, il y en a qui disent que je fais du mandingue, mais moi, parce que j'ai fait une école de musique, je sais ce que je fais quand même. Donc je fais du world music. Donc quand on parle de l'amour ça nous fait vivre. Il n'y a pas une question d'âge. Donc vous avez vu que chaque fois qu'une personne chante l'amour, ça marche toujours. Parce que l'amour, il n'y a pas d'âge pour être amoureux. La vie sans amour, il n'y a pas de vie en fait. Voilà pourquoi il faut toujours parler de l'amour. Il faut donner la joie aux gens.
Cheikh a aussi chanté le mariage, Fourou, l'amour, tu viens de le dire, sans fin. Dans ces chansons-là, c'est beaucoup plus la sensibilisation ou Cheikh raconte son vécu?
Non, sans fin. Bon, il y a une chanson, qui s'appelle Yafama. Ça parle de la difficulté des artistes, que les artistes vivent. C'est-à-dire, des fois, on rentre tard, il y a les histoires des studios. Donc, c'est pour dire à nos femmes, les femmes artistes, des artistes, que on fait un boulot de noctambule. Donc très généralement on est dehors et puis on est entre d'autres femmes, mais ça ne veut pas dire qu'on les aime pas. Si on les épouse, c'est parce qu'on les aime.
Un travail avec beaucoup d'exigences et voilà. Aussi un travail très noble. Hein. On va profiter pour faire un plaidoyer en notre faveur, nos journalistes aussi, c'est pas facile.
N'est-ce
tu
pas?
En sais quelque chose.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a des projets futurs?
Bon,
je sais qu'il y a combien d'albums déjà?
J'ai un album que j'ai nommé à mon papa. J'ai donné le nom à mon papa parce que mon fils papa, il m'a beaucoup soutenu dans mon art.
Personnel.
Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance d'être soutenues par leurs parents. Parce que les gens ne savent pas la valeur de la musique, la culture en général. Donc mon papa il m'a beaucoup soutenu.
Absolument, c'est essentiel le soutien d'un parent, surtout pour vos artistes.
Actuellement, mon projet, je suis sur une création, cinq jeunes. On est dans une résidence afin de créer une chanson pour parler de la paix et la cohésion sociale. Parce qu'il y a beaucoup de talents au Mali, mais il faut les soutenir, il faut les apprendre comment est-ce qu'ils peuvent utiliser leurs talents à travers... cette création.
Un devoir de génération aussi, donner, montrer la voie aux plus petits.
Tout à fait.
Bon vent, Sheikh. Et on va te demander de faire passer un message parce que dans cette émission, on parle humanitaire. Donc les personnes en situation de déplacement qui sont franchement confrontées à pas mal de difficultés. Donc quel mot d'encouragement est-ce que Sheikh peut dire à ces personnes-là ce soir?
Bon, je ne peux que leur dire courage de garder toujours l'espoir parce que sans espoir, il n'y a pas de vie. Je leur dis de vraiment garder l'espoir. Et puis, j'invite l'autorité à penser vraiment à ces gens-là. Donc, j'encourage les réfugiés vraiment d'être courageux. C'est dire que c'est un moment que le Mali traverse, un moment très, très difficile. Mais je leur dirais vraiment de tenir bon. Très bientôt, Inch'Allah, ils vont retourner dans leur localité.
Un petit a cappella pour nous tous, parce que nous sommes tous fans. Hein.
Comme on se dit, on a qu'elle est nous qui s'en fait, s'en fait. T'es ben à la choix, papa la foi à l'aïe. Qu'a signé, légalisé, qu'on belle la bébé l'a signé. Mérila, benyana, koukarignonye, fouroulé la.
Waouh, merci beaucoup, Cheikh Silouan Sissoko. Et à la prochaine.
Ni à la soirée. Merci beaucoup.
Alors, c'était là la rubrique artiste invité de la semaine. Monsieur Ballot, vous aimez la musique déjà?
Oui, un peu, on peut dire un peu.
D'accord.
Oui.
Vous avez aimé ce que vous venez d'écouter?
Il chante amour.
Oui, oui, il chante amour, il chante plein de choses.
On se met ensemble, on donne beaucoup d'amour aux enfants. Surtout à nos enfants déplacés.
Il le mérite, il le mérite. Vous avez aussi spécifié à l'entame de l'émission que vous êtes sur le volet protection, éducation. Est-ce que dans les actions que vous menez au quotidien, il y a également des facilitations pour que les enfants aient accès à leurs documents administratifs parce qu'on sait que ce n'est pas facile quand il n'y a personne derrière eux et qu'ils sont seuls. Est-ce que cela est pris en compte?
Tout à fait. Ça, c'était un volet très important de la protection. Et aussi des déplacés, les enfants eux-mêmes ont organisé un plaidoyer avec le soutien de la COMAT, qui est la Coalition malienne des droits de l'enfant que vous connaissez. Et à la suite de ce plaidoyer, ce fut un 16 juin 2022 où les enfants ont lancé un cri de cœur. Parce que parmi les enfants déplacés, il y en a en majorité, on pourrait dire la plupart n'avaient pas d'acte de naissance. Il y en a qui ont eu leurs documents brûlés dans le feu. Il y en a qui sont allés très vite et les ont laissés derrière. Et il y en a simplement qui n'en ont jamais eu. Donc, à la suite de ce plaidoyer, les bonnes volontés, l'État, on va parler du développement social, de la promotion féminine et la promotion de l'enfant, nous ont soutenus. Et nous, en tant qu'ONG ADAC, nous avons recensé à l'époque les enfants qu'on pouvait. Et on a recensé 1232 enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance. Et on a mené les démarches. On a eu Edico qui nous a appuyés financièrement. Et ces jugements ont été obtenus. Ils ont été remis aux enfants. Et courant 2023... on a encore recensé 188 enfants qui ont eu leur jugement en décembre dernier. Et cette année, on a 188 qu'on a déjà recensés et les démarches sont en cours pour obtenir des jugements pour eux.
Des jugements supplétifs.
Oui.
D'accord. Est-ce que ces enfants ne sont pas aussi exposés à l'instrumentalisation d'un côté?
Bon.
Parce que s'ils sont encadrés sur des sites ou par les mécanismes que vous avez évoqués, mm-hmm. ça va encore. Mais s'ils sont laissés à eux, livrés à eux seuls, est-ce que c'est évident?
Un enfant, quel qu'il soit déplacé ou qu'il soit pas déplacé, un enfant, ça reste un enfant. Il faut toujours qu'il y ait une sérieuse surveillance autour de lui. Sinon, c'est sûr que il y a des tentations qui sont là. Ils peuvent être sujets à des situations vraiment pas souhaitables.
Merci beaucoup. Merci pour toutes ces réponses, M. Ballot. Je rappelle que vous êtes de l'ONG ADAC. Restez avec nous. Nous allons conclure l'émission ensemble. À présent, allons à la découverte du proverbe de la semaine. Tout jeune qui se plaît à offenser les personnes âgées doit s'attendre au même traitement quand il sera vieux. C'est le proverbe qu'on va tenter de comprendre ce soir. Et pour ce faire, nous partons dans la cité des Balanzans. Sur place, notre correspondant Mohamed Cissé a rencontré Zoumana Kanté, traditionnaliste. Écoutons son avis.
La vie, c'est une dynamique. On est bébé, on devient enfant, on devient adolescent, on devient adulte, on devient vieux. Donc c'est un processus. Le proverbe, je crois, a tranché. Hein. Toute personne qui se plaît à offenser une personne âgée étant dans sa jeunesse, rassure-toi que la seule chance que tu as, c'est de mourir avant de vieillir. Sinon, en vieillissant, tu devrais logiquement t'attendre à l'appareil dans ta vieillesse par un plus jeune que toi. Ne fais pas à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse. Donc c'est un peu ça. Les personnes âgées méritent respect. Respect, même protection. Donc dans notre jeunesse, dans notre âge avancé, adulte, avant de vieillir véritablement, on devrait veiller à ce que l'on couvre ces personnes âgées de tendresse, de respect, au risque de nous voir un jour nous-mêmes nous exposer à tous les problèmes qu'on peut être amené à leur causer. Voilà, c'est un peu ça. Les gens, quand ils veilleront sur ces aspects de socialisation, je crois que ça va faire des équilibres. Jurudun, comme on dit, quand tu fais un crédit, quelle que soit sa nature, tu attends peut-être au retour qu'on vous paye ces crédits.
Une réaction sur ce proverbe, M. Ballot?
comme il a dit, mais on devrait veiller à ce que Jirou Kanadou. Donc, quelque part, l'éducation des enfants incombe aux adultes. Déjà, quand l'éducation est ratée, c'est ce qui peut conduire ces enfants à manquer de respect aux aînés aussi.
Absolument. Et je crois que vous l'avez déjà fait, vous l'avez transposé dans le domaine humanitaire. Tout ce que nous faisons de bien ou de mal nous revient d'une manière ou d'une autre.
Effectivement, tout à fait.
C'est pratiquement la fin de cette émission. Nous allons permettre à M. Ballot de conclure si vous avez des choses à ajouter à tout ce qu'on a dit.
Bon, c'est tout d'abord remercier Studio Tamani, remercier la commande qui nous accompagne aussi dans nos activités, remercier notre partenaire qui est Terre des Hommes Suisses. Et dire que tant que les enfants, les parents ne sont pas retournés dans leur zone de résidence, c'est toujours du travail pour les enfants. On est mieux que chez soi. On peut souhaiter que les choses se calment et que les populations déplacées retournent dans leurs localités respectives. Mais entre-temps, il faut qu'on unisse nos forces pour vraiment aider ces enfants-là. Aider les enfants, surtout en matière de vivre. C'est le constat qui vient. Parce que nous intervenons dans l'éducation, comme je l'ai dit, la protection et la participation des enfants. Mais le problème crucial dans les sites déplacés, c'est généralement la nourriture.
On va espérer que ce cri de cœur atteigne des oreilles attentives. Merci beaucoup, Monsieur Drissa Ballot. Vous êtes de l'ONG ADAC, l'Association pour le développement et l'appui aux communautés. Nous avons parlé du cas des enfants en situation de déplacement, mais qui sont aussi orphelins. Merci à vous, très chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter gratuitement cette émission sur toutes nos plateformes digitales. À la présentation, il y avait Lala Diarra Touré. Gagny Kanté a conduit les opérations techniques. Ne décrochez surtout pas la version en langue nationale bamako. C'est juste après ça.